Histoire d'un conscrit de 1813. Erckmann Chatrian. Chapitre 1er. Ceux qui n'ont pas vu la gloire de l'empereur Napoléon dans les années 1810, 1811 et 1812 ne sauront jamais à quel degré de puissance peut monter un homme. Quand il traversait la Champagne, la Lorraine ou l'Alsace, les gens, au milieu de la moisson ou des vendanges, abandonnaient tout pour courir à sa rencontre. Il en arrivait de 8 ou 10 lieues. Les femmes, les enfants, les vieillards se précipitaient sur sa route en levant les mains et criant « Vive l'empereur ! Vive l'empereur !» On aurait cru que c'était Dieu, qu'il faisait respirer le monde, et que si par malheur il mourait, tout serait fini. Quelques anciens de la République, qui hochaient la tête et se permettaient de dire, entre deux vins, que l'empereur pouvait tomber, passaient pour des fous. Cela paraissait contre nature, et même on n'y pensait jamais. Moi, j'étais en apprentissage, depuis 1804, chez le vieil horloger Melchior Gulden, à Phalsbourg. Comme je paraissais faible et que je boitais un peu, ma mère avait voulu me faire apprendre un métier plus doux que ceux de notre village, car au Dagsberg, on ne trouve que des bûcherons, des charbonniers et des schitters. Monsieur Gulden m'aimait bien. Nous demeurions au premier étage de la grande maison qui fait le coin en face du Bœuf Rouge, près de la Porte de France. C'est là qu'il fallait voir arriver des princes, des ambassadeurs et des généraux, les uns à cheval, les autres en calèche, avec des habits galonnés, des plumets, des fourrures et des décorations de tous les pays. Et sur la grande route, il fallait voir passer les courriers, les estafettes, les convois de poudre, de boulets, les canons, les caissons, la cavalerie et l'infanterie. Quel temps, quel mouvement! En 5 ou 6 ans, l'hôtelier Georges fit fortune. Il eut des prés, des vergers, des maisons et des écus en abondance, car tous ces gens arrivant d'Allemagne, de Suisse, de Russie, de Pologne ou d'ailleurs ne regardaient pas quelques poignées d'or répandues sur les grands chemins. C'étaient tous des nobles qui se faisaient gloire en quelque sorte de ne rien ménager. Du matin au soir, et même pendant la nuit, l'hôtel du Bœuf Rouge tenait table ouverte. Le long des hautes fenêtres en bas, on ne voyait que les grandes nappes blanches, étincelantes d'argenterie, couvertes de gibier, de poissons et d'autres mets rares autour desquels ces voyageurs venaient s'asseoir côte à côte. On n'entendait dans la grande cour, derrière, que les hennissements des chevaux, les cris des postillons, les éclats de rire des servantes, le roulement des voitures arrivant tout partant sous les hautes portes cochères. Ah, l'hôtel du Bœuf Rouge n'aura jamais un temps de prospérité pareil. On voyait aussi descendre là des gens de la ville qu'on avait connus dans le temps pour chercher du bois sec à la forêt ou ramasser le fumier des chevaux sur les grandes routes. Ils étaient passés commandants, colonels, généraux, 1 sur 1000 à force de batailler dans tous les pays du monde. Le vieux Melchior, son bonnet de soie noire tiré sur ses larges oreilles poilues, les paupières flasques, le nez pincé dans ses grandes besicles de cornes et les lèvres serrées, ne pouvait s'empêcher de déposer sur l'établi sa loupe et son poinçon, et de jeter quelquefois un regard vers l'auberge, surtout quand les grands coups de fouet des postillons, à lourdes bottes, petites vestes et perruques de chanvre tortillées sur la nuque, retentissaient dans les échos des remparts, annonçant quelques nouveaux personnages. Alors, il devenait attentif, et de temps en temps, je l'entendais s'écrier. « Tiens, c'est le fils du couvreur Jacob, de la vieille ravaudeuse Marianne, ou du tonnelier Franz Seppel. Il a fait son chemin. » « Le voilà colonel et baron de l'Empire par-dessus le marché. Pourquoi donc est-ce qu'il ne descend pas chez son père qui demeure là-bas, dans la rue des Capucins ?» Mais lorsqu'il les voyait prendre le chemin de la rue en donnant des poignées de main à droite et à gauche aux gens qui le reconnaissaient, sa figure changeait. Il s'essuyait les yeux avec son gros mouchoir à carreaux en murmurant. « C'est la pauvre vieille Annette qui va avoir du plaisir. À la bonne heure, à la bonne heure. Il n'est pas fier, celui-là. C'est un brave homme. » Pourvu qu'un boulet ne l'enlève pas de sitôt. Les uns passaient comme honteux de reconnaître leur nid, les autres traversaient fièrement la ville pour aller voir leur sœur ou leur cousine. Ceci, tout le monde en parlait. On aurait dit que tout Phalsbourg portait leur croix et leurs épaulettes. Les autres, on les méprisait, autant et même plus que lorsqu'ils balayaient la grande route. On chantait presque tous les mois des Te Deum pour quelques nouvelles victoires, et le canon de l'arsenal tirait ses 21 coups, qui vous faisaient trembler le cœur. Dans les 8 jours qui suivaient, toutes les familles étaient dans l'inquiétude. Les pauvres vieilles femmes, surtout, attendaient une lettre. La première qui venait, toute la ville le savait. Une telle a reçu des nouvelles de Jacques ou de Claude. Et tous couraient pour savoir s'ils ne disaient rien de leur Joseph ou de leur Jean-Baptiste. Je ne parle pas des promotions ni des actes de décès. Les promotions, chacun y croyait. Il fallait bien remplacer les morts. Mais pour les actes de décès, les parents attendaient en pleurant. Car ils n'arrivaient pas tout de suite. Quelquefois même, ils n'arrivaient jamais. Et les pauvres vieux espéraient toujours, pensant. Peut-être que notre garçon est prisonnier. Quand la paix sera faite, il reviendra. Combien sont revenus qu'on croyait morts? Seulement, la paix ne se faisait jamais. Une guerre finie, on en commençait une autre. Il nous manquait toujours quelque chose, soit du côté de la Russie, soit du côté de l'Espagne ou ailleurs. L'empereur n'était jamais content. Souvent, au passage des régiments qui traversaient la ville, la grande capote retroussée sur les hanches, le sac au dos, les hautes guêtres montant jusqu'aux genoux et le fusil à volonté, allongeant le pas, tantôt couvert de boue, tantôt blanc de poussière, souvent, le père Melchior, après avoir regardé ce défilé, me demandait, tout rêveur, « Dis donc, Joseph, combien penses-tu que nous en avons vu passer depuis 1804 ?»« Oh, je ne sais pas, monsieur Goulden, lui disais-je. Au moins 400 ou 500 000. »« Oui, au moins, faisait-il. Et combien l'as-tu vu revenir ?» Alors, je comprenais ce qu'il voulait dire. Et je lui répondais, « Peut-être qu'il rentre par Mayence, par une autre route. Ce n'est pas possible autrement. » Mais il hochait la tête et disait, « Ceux que tu n'as pas vu revenir sont morts, comme des centaines et des centaines de mille autres mourront, si le bon Dieu n'a pas pitié de nous, car l'empereur n'aime que la guerre. Il a déjà versé plus de sang pour donner des couronnes à ses frères que notre grande révolution pour gagner les droits de l'homme. » Nous nous remettions à l'ouvrage. Et les réflexions de M. Goulden me donnaient terriblement à réfléchir. Je boitais bien un peu de la jambe gauche, mais tant d'autres avec des défauts avaient reçu leur feuille de route tout de même. Ces idées me trottaient dans la tête, et quand j'y pensais longtemps, j'en concevais un grand chagrin. Cela me paraissait terrible, non seulement parce que je n'aimais pas la guerre, mais encore parce que je voulais me marier avec ma cousine Catherine des 80. Nous avions été en quelque sorte élevés ensemble. On ne pouvait voir de fille plus fraîche, plus riante. Elle était blonde, avec de beaux yeux bleus, des joues roses et des dents blanches comme du lait. Elle approchait de ses 18 ans. Moi, j'en avais 19, et la tante Magrédel paraissait contente de me voir arriver tous les dimanches de grand matin pour déjeuner et dîner avec eux. Catherine et moi, nous allions derrière dans le verger. Nous mordions dans les mêmes pommes et dans les mêmes poires. Nous étions les plus heureux du monde. C'est moi qui conduisais Catherine à la grand-messe et aux vêpres, et pendant la fête, elle ne quittait pas mon bras et refusait de danser avec les autres garçons du village. Tout le monde savait que nous devions nous marier un jour, mais si j'avais le malheur de partir à la conscription, tout était fini. Je souhaitais d'être encore 1000 fois plus boiteux, car dans ce temps, on avait d'abord pris les garçons, puis les hommes mariés sans enfants, et malgré moi, je pensais, est-ce que les boiteux valent mieux que les hommes mariés ? Est-ce qu'on ne pourrait pas me mettre dans la cavalerie ? Rien que cette idée me rendait triste. J'aurais déjà voulu me sauver. Mais c'est principalement en 1812, au commencement de la guerre contre les Russes, que ma peur grandit. Depuis le mois de février jusqu'à la fin de mai, tous les jours, nous ne vîmes passer que des régiments et des régiments. Des dragons, des cuirassiers, des carabiniers, des hussards, des lanciers de toutes les couleurs. De l'artillerie, des caissons, des ambulances, des voitures, des vivres, toujours et toujours comme une rivière qui coule et dont on ne voit jamais la fin. Je me rappelle encore que cela commença par des grenadiers qui conduisaient de gros chariots attelés de bœufs. Ces bœufs étaient à la place des chevaux pour servir de vivres plus tard quand on aurait usé les munitions. Chacun disait « Quelle belle idée !» Quand les grenadiers ne pourront plus nourrir les bœufs nourriront les grenadiers. Malheureusement, ceux qui disaient cela ne savaient pas que les bœufs ne peuvent faire que 7 ou 8 lieues par jour, et qu'il leur faut sur 8 jours de marche un jour de repos au moins, de sorte que ces pauvres bêtes avaient déjà la corne usée, la lèvre baveuse, les yeux hors de la tête, le cou rivé dans les épaules, et qu'il ne leur restait plus que la peau et les os. Il en passa pendant 3 semaines de cette espèce, tout déchiré de coups de baïonnette. La viande devint bon marché, car on abattait beaucoup de ces bœufs, mais peu de personnes en voulaient, la viande malade était malsaine. Ils n'arrivèrent pas seulement à 20 lieues de l'autre côté du Rhin. Après cela, nous n'avîmes plus défiler que des lances, des sabres et des casques. Tout s'engouffrait sous la porte de France, traversait la place d'armes en suivant la grande route et sortait par la porte d'Allemagne. Enfin, le 10 mai de cette année 1812, de grand matin, les canons de l'arsenal annoncèrent le maître de tout. Je dormais encore lorsque le premier coup partit, en faisant grelotter mes petites vitres comme un tambour. Et presque aussitôt, M. Goulden, avec la chandelle allumée, ouvrit ma porte en me disant « Lève-toi, le voilà !» Nous ouvrîmes la fenêtre. Au milieu de la nuit, je vis s'avancer au grand trot, sous la porte de France, une centaine de dragons, dont plusieurs portaient des torches. Ils passèrent avec un roulement et des piétinements terribles. Leur lumière serpentait sur la façade des maisons comme de la flamme. Et de toutes les croisées, on entendait partir des cris sans fin. « Vive l'empereur ! Vive l'empereur !» Je regardais la voiture quand un cheval s'abattit sur le poteau du boucher Klein, où l'on attachait les bœufs. Le dragon tomba comme une masse, les jambes écartées, le casque dans la rigole, et presque aussitôt, une tête se pencha hors de la voiture pour voir ce qui se passait. Une grosse tête pâle et grasse, une touffe de cheveux sur le front. C'était Napoléon. Il tenait la main, levée comme pour prendre une prise de tabac, et dit quelques mots brusquement. L'officier qui galopait à côté de la portière se pencha pour lui répondre. Il prit sa prise et tourna le coin, pendant que les cris redoublaient et que le canon tonnait. Voilà tout ce que je vis. L'empereur ne s'arrêta pas à Phalsbourg. Tandis qu'il courait déjà sur la route de Saverne, le canon tirait ses derniers coups. Puis le silence se rétablit. Les hommes de garde, à la porte de France, relevèrent le pont. Et le vieil horloger me dit « Tu l'as vu ?»« Oui, monsieur Goulden. » « Eh bien, fit-il, cet homme-là tient notre vie à tous dans sa main. Il n'aurait qu'à souffler sur nous et ce serait fini. Bénissons le ciel qu'il ne soit pas méchant. Car sans cela, le monde verrait des choses épouvantables, comme du temps des rois sauvages et des Turcs. » Il semblait tout rêveur. Au bout d'une minute, il ajouta « Tu peux te recoucher. Voici 3 heures qui sonnent. » Il rentra dans sa chambre et je me remis dans mon lit. Le grand silence qu'il faisait dehors me paraissait extraordinaire après tout ce tumulte, et jusqu'au petit jour, je ne cessais point de rêver à l'empereur. Je songeais aussi au dragon, et je désirais savoir s'il était mort du coup. Le lendemain, nous apprîmes qu'on l'avait porté à l'hôpital, et qu'il en reviendrait. Depuis ce jour, jusqu'à la fin du mois de septembre, on chanta beaucoup de Tédéum à l'église, et l'on tirait chaque fois 21 coups de canon pour quelques nouvelles victoires. C'était presque toujours le matin. M. Goulden aussitôt s'écriait. « Hé, Joseph, encore une bataille gagnée !» 50 000 hommes à terre, 25 drapeaux, 100 bouches à feu. Tout va bien. Tout va bien. Il ne reste maintenant qu'à faire une nouvelle levée pour remplacer tous ceux qui sont morts. » Il poussait ma porte et je le voyais tout gris, tout chauve, en manche de chemise, le cou nu, qui se lavait dans la cuvette. « Est-ce que vous croyez, M. Goulden, lui disais-je dans un grand trouble, qu'on prendra les boiteux ?»« Non, non, faisait-il avec bonté. Ne crains rien, mon enfant. Tu ne pourrais réellement pas servir. Nous arrangerons cela. Travaille seulement bien et ne t'inquiète pas du reste. » Il voyait mon inquiétude. Et cela lui faisait de la peine. Je n'ai jamais rencontré d'homme meilleur. Alors il s'habillait pour aller remonter les horloges en ville, celles de M. le commandant de place, de M. le maire et d'autres personnes notables. Moi, je restais à la maison. M. Goulden ne rentrait qu'après le Tédéum. Il ôtait son grand habit noisette, remettait sa perruque dans la boîte et tirait de nouveau son bonnet de soie sur ses oreilles en disant « L'armée est à Vilna. » « Bien, Smolensk, je viens d'apprendre ça chez monsieur le commandant. Dieu veuille que nous ayons le dessus cette fois encore et qu'on fasse la paix. Le plus tôt sera le mieux, car la guerre est une chose terrible. » Je pensais aussi que si nous avions la paix, on n'aurait plus besoin de tant d'hommes, et que je pourrais me marier avec Catherine. Chacun peut s'imaginer combien de vœux je formais pour la gloire de l'empereur.